Pauline Pucciano, Paradict. 12 novembre 2071. Paradict, le pic des 7 milliards d'utilisateurs est dépassé. La route, un espace de non-droit au cœur de la démocratie. Ruines sous-marines de Venise, le site dorénavant interdit aux plongeurs. Un vent soutenu balayait la city depuis le début de la semaine. Il rendait certes la chaleur plus supportable, mais l'agitation continuelle des objets, le tourbillon des papiers et des feuilles, le claquement des drapeaux et des vêtements, les chutes des chapeaux, les bris de verre, l'emmêlement des cheveux et le bruit constant commençaient à taper sur les nerfs d'Alvar. Il fut presque surpris, en passant sur la route, de constater que le vent ne connaissait pas de frontières et que les voiles solaires des roulottes claquaient tout autant, sinon plus, que les foulards des sédentaires. Le vent était un peu plus ample ici, comme si les vagues d'air franchissaient une distance plus grande avant de déferler. Les gnomes, la tête découverte, probablement parce que leur chapeau ne tenait pas en place, s'affairaient comme à l'ordinaire, c'est-à-dire autant qu'Alvar pouvait juger de leur ordinaire. Le patron prenait le frais à l'extérieur de sa tente, comme un général en campagne. Il était en bras de chemise, et à côté de lui, un jeune homme qui semblait réparer un moteur pestait à intervalles réguliers contre le vent qui faisait tomber ses vis et ses boulons. « Tiens, voilà le messager des dieux !» se moqua-t-il en voyant débarquer Alvar. « À quel genre de message vous attendez-vous » demanda Alvar en guise de salut. « Bah, le dieu du vent semble nous être favorable. Allons-nous pouvoir lever l'ancre ?» « Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre. Ce pays nous ennuie, ô mort, appareillons. » Le patron observa finement le jeune homme comme pour réviser son jugement sur lui. « Ce pays nous ennuie, en effet, » répéta-t-il. « Je suis désolé, » dit Alvar, « je me suis laissé emporter par la poésie. Je n'ai pas de nouvelles à vous transmettre, et surtout pas celle de votre départ. Marek Escanza n'a pas fini de parler. » « J'aimerais bien savoir ce qu'un mort peut avoir à dire. Vous seriez surpris. L'ADN a parlé, par exemple. Il m'a parlé d'un dénommé Bassel Kazra, qui est répertorié dans votre caravane et qui a déjà été appréhendé à de nombreuses reprises pour des infractions diverses. » « L'ADN parle bien lentement, je trouve. Moi, Bassel Kazra, ça fait un moment que je lui ai posé mes questions. Et où pourrais-je le voir ? Je vais vous accompagner. » Alvar jeta un œil sur le jeune qui faisait semblant de se concentrer sur la mécanique, mais qui n'avait probablement rien perdu de leur échange. Le patron se dirigea sans se presser dans le dédale des véhicules arrêtés. Échoué était peut-être un meilleur mot. Il faisait exactement comme si Alvar n'existait pas. Non content de ne pas lui adresser la parole, il s'arrêtait pour échanger quelques mots à droite et à gauche, et Alvar dut même l'attendre 5 bonnes minutes lorsqu'il décida de goûter ce qui cuisait dans la marmite qui gargouillait, sous la surveillance oisive d'une matrone, non loin de la roulotte de Marek. Alvar en profita pour la regarder encore, avec ses peintures naïves et ses couleurs écaillées. Elle exerçait sur lui une attraction presque magnétique. Enfin, le patron se remit en marche, paresseusement, et il finit par s'adresser à Alvar lorsqu'il arriva devant une roulotte étroite, grise et rouge. « C'est là que vous trouverez Bassel, » dit-il. « Merci, » fit simplement Alvar. « Il vaudrait peut-être mieux que j'assiste à l'entretien, » proposa le patron. Alvar ne comprit pas d'emblée pourquoi, mais cet homme dégageait une autorité tranquille à laquelle il n'avait pas envie de résister. « Vous pensez que cela m'aidera ?» Le patron gloussa sans répondre et pénétra à l'intérieur. « Ça pue là-dedans, Bassel. Respecte-toi un peu. » De fait, il y avait dans cet espace confiné des relents d'alcool, de sueur et même de sang. Le patron ouvrit les volets brusquement, et la lumière entra à flot, avec le vent, dans ce réduit misérable, où un homme d'une 50aine d'années se réveillait difficilement de ce qui ressemblait à un sommeil éthylique. « Y a un inspecteur, là, pour toi !» Bassel Kazra grogna et jura dans sa langue. « Je vous attends dehors, » dit Alvar. « Mais non, pourquoi ?» protesta le patron. « Vous êtes debout, et lui, il est couché. » C'est ce que vous pouvez espérer de mieux pour un interrogatoire. Pourquoi lui donner le temps de se relever ? Bassel Kazra avait les yeux bien ouverts maintenant, et Alvar remarqua également qu'un pansement énorme et sanguinolent recouvrait plusieurs doigts de sa main droite. Le patron s'adressa à lui sans aménité dans leur langue, et Alvar comprit qu'il pouvait le questionner. Le type avec qui vous avez traité, celui qui vous a payé pour casser la tête de Marek, c'est lui que je veux. » Le patron semblait très amusé. « Dites donc, vous faites des efforts pour vous mettre au niveau. » Bassel répondit quelque chose dans sa langue que le patron traduisit. « Il dit qu'il ne voit pas de quoi vous parler. » « Vous faites la traduction ou vous écrivez le dialogue ?» lui demanda Alvar. Le patron paraissait de plus en plus amusé. « Il se trouve que le cadavre de Marek est plein de votre ADN, » reprit Alvar en parlant beaucoup plus vite, « ce qui fait de vous mon suspect numéro 1. Si vous voulez qu'on parle technique, j'ai dans la poche un mandat d'amener tout ce qu'il y a de plus réglementaire et on peut continuer la conversation en garde à vue. » Le patron, les yeux pétillants, regarda Alvar de bas en haut avant de demander. « Vous attendez du renfort ? Et vous voulez que je vous coffre pour mutilation volontaire sur la main droite de Bassel Khazra ?» Le patron fit mine de dominer son envie de rire, puis il dit à mi-voix. « Arrête tes conneries, Bassel, tu peux répondre. Il est réglo. »« Qu'est-ce que vous voulez savoir ?» demanda Bassel d'une voix sourde et sans aucun accent. « Qui t'a contacté ? Comment ? Où tu l'as rencontré ? À quoi il ressemblait ? Comment il t'a payé ? Tout ce qui te revient. » Bassel Khazra émit un sifflement appréciateur. « Ça va me donner soif, tout ça !» Devant le silence des deux autres, il continua cependant. D'habitude, pour ce genre de contrat, les gens contactent leur type presque par hasard. Il y a des lieux pour ça dans la city, vous devez les connaître. Parfois, il y a des intermédiaires, parfois, non. On est payé en liquide, on ne taille pas la bavette, on prend une photo, une adresse, souvent même pas de nom. Je ne dis pas que je l'ai fait personnellement, hein, mais je connais des gars qui l'ont fait. Ils m'ont toujours raconté la même chose. Le col blanc se pointe, il se rend garde avec un type dans mon genre, lui donne les détails, on s'arrange sur le montant. Mais pour Marek, ce n'était pas comme ça. « Qu'est-ce qui était différent ?» demanda Alvar. « D'abord, ce gars m'a contacté, moi, spécialement, et pas un autre, parce que je faisais partie de la caravane de Marek. C'est pas commun, ça, de demander à quelqu'un de régler son compte à un voisin. » « Et le montant, il était commun ?»« Non, le montant n'était pas commun non plus. Combien ?»« Un gros paquet. » Alvar croisa le regard du patron, qui semblait dire « À quoi bon savoir ?» mais il insista. « J'ai besoin de savoir la somme que ce type a été prêt à mettre. »« 50 000. »« Continuez. » »« Un soir que je sortais pour aller dans la city vers 23 h. »« Quel soir ?»« Le soir même. »« Le soir de quoi ?»« Le soir de la mort de Marek. » »« Vous êtes marrant, » dit Alvar. « Vous en parlez comme d'un événement naturel. Vous voulez dire le soir du meurtre. » « Oui, le soir du meurtre, » reprit Bassel, d'un air un peu contrit. « Je sortais vers 23 h. »« Seul ?»« Oui, je n'aime pas faire mes affaires en bande. Je sortais donc, et ce type était là, dans une voiture électrique dernier cri. »« Vous vous souvenez du modèle ?»« Non, il faisait noir et les phares m'ont un peu aveuglé quand je me suis approchée. C'est comme ça que j'ai vu que quelqu'un me faisait signe de l'intérieur. J'ai voulu passer mon chemin, mais le type a insisté. « Vous ne voulez pas gagner de l'argent ?» il a crié. Moi, gagner de l'argent, c'était ce que j'étais parti faire, alors je me suis approchée. Il y avait quelqu'un d'autre dans la voiture ? Non, pas de chauffeur. Le type était au volant, sapé comme un bourgeois. Vous pouvez être plus précis ? Costume cher, chemise classe, les cheveux coupés nets. La voiture était où exactement ? Garée sur le boulevard extérieur, en face de la sortie. Vous pourriez dire que cette voiture était garée de manière à voir quiconque sortait de la caravane ? Oui. « Est-il possible que vous n'ayez pas été choisi exprès, mais que vous ayez été le premier qui soit sorti au moment où la voiture planquait ?»« Possible, mais je sais que d'autres noms étaient passés juste avant. Chalinka et Alia, à peine quelques minutes avant, je leur ai parlé quand elles passaient. » Alvar nota ce détail sur son ordinateur. « Mais le type dans la voiture ne cherchait peut-être pas deux filles, mais un homme seul, susceptible d'accepter le sale boulot. »« Je dirais que si c'est ça, il a eu de la veine. » « Pourquoi ? Parce que peu de gens dans la caravane auraient accepté de le faire. Donc vous pensez plutôt qu'il savait à qui il s'adressait ?»« Oui. » »« Parce que vous aviez déjà fait ce genre de travail et que vous auriez été recommandé par quelqu'un ?»« Je ne sais pas. Je ne l'ai pas fait ce genre de travail personnellement, mais il est possible qu'on m'ait recommandé pour un sale boulot en général. » »« Les gens avec qui vous travaillez savent de quelle caravane vous venez ?»« Non, » dit Bassel vivement. Alvar et le patron s'entre-regardèrent, puis Alvar hocha la tête. « Continuez. Le type vous a fait venir dans sa voiture dernier cri, vous avez jeté un coup d'œil à son costume cher, et après. » Il a répété « Vous voulez vous faire de l'argent ? J'ai un boulot pour vous à 50 000. »« J'ai dit « Faut voir, quel genre de boulot ?» Il a répondu « Le genre discret, que je ne peux pas faire moi-même, mais pas trop difficile à réussir. » Puis il m'a posé quelques questions, du genre « Est-ce que j'habitais bien dans la caravane ? Est-ce que je connaissais un dénommé Marek ? Est-ce qu'il habitait tout seul ? Est-ce que je l'aimais bien ? Est-ce que j'avais besoin d'argent pour ma famille ? Des conneries comme ça. » « Qu'est-ce que vous avez répondu ?»« Que je le connaissais de vue et que je ne l'aimais pas particulièrement, vu que c'était un blême qui ne sortait pas beaucoup de sa roulotte. » « Comment a-t-il réagi ?»« Il a eu l'air surpris. » « Comme s'il ne savait pas que Marek était délicat ?» Bassel réfléchit. « Oui. » « Essayez de vous rappeler. Il vous a dit exactement « Est-ce que vous connaissez un dénommé Marek ?» ou bien il a donné le nom de famille, Marek Eskanza. » « Il n'a pas donné de nom de famille. » Et qu'est-ce qu'il a demandé ? De le liquider et de récupérer son ordinateur mobile. J'ai dit que je pouvais juste voler l'ordinateur pour la moitié de l'argent, mais il voulait vraiment le tuer. Et vous avez accepté. À ces mots, Bassel regarda le patron, et il y eut un moment un peu suspendu où il fut comme cloué par ce regard de feu. « J'aurais dû te couper la main entière, » maugréa le patron d'un air sombre. Alvar chargea les modèles de voiture et le logiciel de portrait robot. Mais avant de passer à cette étape, il avait encore quelques questions. « Bassel, ce qui est important à partir de maintenant, ce sont les détails dont vous pourrez vous souvenir. Un tic verbal, un signe distinctif, un défaut dans le vêtement, une éraflure sur la voiture. Ce type avait un costume cher et une voiture dernier cri. Sans aucun autre détail, ça pourrait être à peu près n'importe qui. Le portrait robot va nous aider, bien sûr, mais rien ne remplace les détails. » Le regard du patron continuait à vriller Bassel Kazra, comme s'il avait pu le faire rentrer sous terre par la force de sa volonté. L'assassin fouillait dans sa mémoire, à la recherche d'un peu de rédemption. C'était un homme habitué à négocier. Il a reçu un coup de téléphone pendant notre conversation, et s'est excusé machinalement avant de décrocher. Il a dit « Excusez-moi, je dois prendre cet appel ». Puis il a décroché, et il a appelé son interlocuteur par son nom. C'était un nom chinois, je n'arrive pas à m'en souvenir. En quelle langue parlait-il ? En anglais. Vous avez compris la teneur de la conversation ? Ça avait l'air d'être une nouvelle importante parce qu'il a poussé quelques exclamations de surprise. Une nouvelle comme quoi ? Je ne sais pas, il disait des choses comme « C'est pas vrai, tu plaisantes ? Mais comment est-ce possible ? Ça va faire des remous. » La conversation n'a pas duré longtemps. Il a remercié le chinois et il est revenu vers moi. Il semblait affecté par ce coup de téléphone ? Un peu excité peut-être, pas plus que ça. Il vous a donné l'argent à l'avance. « Non. Il m'a dit que si je pouvais faire ça dans l'heure, il m'attendait ici. Je devais échanger l'argent contre l'ordinateur. Il n'a pas demandé de preuve du meurtre. Non. C'est ce que vous avez fait ?» Alvar espérait depuis tout à l'heure que la restitution de l'ordinateur et le paiement constitueraient une nouvelle piste. « Je lui ai dit qu'il faudrait que j'attende les petites heures de la nuit. Il a eu l'air ennuyé, comme un homme pressé qui n'aime pas perdre son temps. Il a demandé si je ne pouvais pas le faire tout de suite. Je lui ai dit que c'était trop dangereux. » Alors il m'a demandé mon numéro de téléphone et il a dit qu'il passerait prendre l'ordinateur à 5 heures cette même nuit, sauf contre-ordre de sa part. Au même endroit ? Oui. Et que s'est-il passé ensuite ? Je suis sortie de la voiture. Il a démarré presque tout de suite. Ça ne faisait pas beaucoup de bruit, mais on sentait quand même la puissance du moteur. Ce n'était pas une petite citadine, mais une voiture capable de manger des kilomètres. Par où est-il parti ? Par le boulevard, en direction du centre. « Et vous ?»« Moi, j'ai attendu dans ma roulotte, dans le noir, jusqu'à 2h30. Puis je me suis faufilée jusque chez Marek. Je vous jure qu'il n'a pas souffert. » Alvar ressentit une bouffée de colère, mais il se contint. Cette partie-là était fausse, sans le moindre doute, mais il avait accepté de laisser filer celui-ci pour pouvoir attraper l'autre. Il ne pouvait pas revenir en arrière. « Enlevez-moi ce bandage, s'il vous plaît, » dit-il très calmement. « C'est pas beau à voir, » prévint Bassel. « Justement, » dit Alvar. Avec une grimace de douleur et des précautions dont Alvar ne l'aurait pas cru capable, Bassel Kazra retira son pansement, découvrant les moignons gonflés et rouges de son pouce et de son index, probablement sectionnés avec un sécateur. Alvar n'était pas capable d'endiguer son empathie, même pour l'assassin de Marek. La vue de cette main mutilée provoquait chez lui une sensation qui n'était pas vraiment de la douleur, mais qui y ressemblait. Et cette compassion toute physique suffit à calmer sa colère et lui permit de continuer l'interrogatoire avec suffisamment de sang-froid. C'était ce qu'il avait cherché. « J'ai eu ce que je méritais, » dit Bassel. « Le patron s'est même montré clément. »« Ça va, » siffla ce dernier. « On n'a pas besoin que tu fasses ton mea culpa. Je sais ce que tu vaux maintenant, et je t'ai à l'œil. » Pour votre peine, enchaîna Alvar, vous allez encore faire un effort et nous dire s'il y a un détail pendant le meurtre ou après qui vous a marqué. Vassel Kazra émit une sorte de grognement. Un détail qui m'a marqué, vous vous foutez de moi? Toute la scène m'a marqué. Racontez-la moi. Je préfère pas. On ne te demande pas ton avis, dit le patron. La porte de la roulette grinçait et Marek a tout de suite vu que quelqu'un entrait. Il était assis sur son lit en face de la porte, avec son ordinateur sur les genoux. Et il a essayé d'allumer la lumière, mais je l'ai pris de court. L'écran de l'ordinateur éclairait son visage blanc. Quand il a vu venir le coup, il s'est recroquevillé du côté du mur. J'ai eu l'impression de taper dans un truc fragile, et j'ai eu peur de le démembrer. J'ai pris l'ordinateur, j'ai attendu quelques minutes en écoutant au dehors, et je suis partie. « Pourquoi y a-t-il votre ADN sur le corps ?» J'ai vérifié qu'il était mort. « Comme ça, sans gants. » Bassel soupira. « Oui, je vous l'ai dit, je ne suis pas un professionnel, je n'ai pas réfléchi. »« Qu'est-ce qu'il y avait sur l'ordinateur ?»« Quand je suis entrée, il avait un écouteur sur les oreilles. Je ne suis pas sûre qu'il parlait à quelqu'un, mais il y avait une image sur l'ordinateur, un genre d'avatar en 3D. Et j'ai cru reconnaître une communication, mais ça avait disparu quand j'ai pris l'ordinateur. »« L'avatar, il ressemblait à quoi ?»« Je l'ai vu vraiment brièvement quand il s'est recroquevillé et que l'ordinateur est tombé. » Ça ressemblait à une créature féminine avec les yeux jaunes. Ça ressemblait à un ange du paradicte? Oui, sûrement, pour le peu que j'en sache. Alvar nota encore quelques mots. Quand vous avez récupéré l'ordinateur, vous l'avez regardé? Je l'ai surtout fermé pour qu'il ne fasse plus de lumière. Mais vous l'avez vu? Oui, le visage de l'avatar avait disparu. Et qu'est-ce qu'il y avait à l'écran? Un truc compliqué, des lignes de code et des schémas 3D qui tournaient sur eux-mêmes. Vous ne vous souvenez pas de quelque chose d'écrit? Non. Alvar relut ses notes, puis il dit au patron. Il va falloir retrouver ses écouteurs. Il y avait sûrement un micro, peut-être un enregistrement, avec un peu de chance. Le patron haussa les épaules. C'est vous le chef? On a fini? Demanda Bassel, qui paraissait épuisé. Non. Vous avez revu votre homme comme convenu à 5 heures du matin? Oui, j'ai dormi 2 heures dans ma roulotte, mais j'ai mis mon réveil. Le sommeil du juste, ironisa le patron. Et à 5 heures, vous avez remarqué quelque chose? La voiture est arrivée avec un peu de retard, et le conducteur m'a paru légèrement ivre. Tout était moins net dans son visage. Je pense qu'il avait passé la nuit à faire la fête. L'argent était rangé dans quoi? Dans un sac de sport. Vous l'avez encore? Non, il m'a demandé de le lui rendre. Où avez-vous mis mes billets? Dans un ballot que j'avais apporté. Et il n'a rien dit au moment de partir. Il a vérifié l'ordinateur avec l'air satisfait et il a démarré en trombe. J'ai été surpris par la musique qu'il écoutait. C'était un morceau d'opéra. Est-ce qu'on a fini maintenant? Non. Nous devons encore établir la marque de la voiture et le portrait robot du commanditaire. Il faisait sans doute encore plus chaud que la première fois, dans cette roulotte étouffante, que personne n'avait aérée depuis la mort de Marek. Le corps manquait, mais tout le reste paraissait identique. Jusqu'aux odeurs stagnantes qui flottaient dans l'air lourd. C'était sans doute la première fois dans sa carrière qu'Alvar visitait à nouveau une scène de crime après avoir obtenu les aveux de l'assassin. Il ne mit pas longtemps à trouver les écouteurs qui avaient roulé entre le lit et la paroi. Ils étaient déchargés, bien sûr, mais le service technique pourrait peut-être en tirer quelque chose. Alvar s'attarda encore un moment dans ce décor qui lui était devenu étrangement familier. Un mouvement sur sa droite lui fit tourner la tête, et il observa d'un œil morne un énorme cafard, échoué sur le dos, qui remuait lamentablement ses pattes dans le vide. Alvar songea que la dernière fois, le corps mort faisait tache dans un lieu qui portait encore les marques de la vie. Aujourd'hui, le corps avait disparu, mais la mort avait imprégné toute la roulotte, qui paraissait creuse, puante et infestée de vermine, comme une carcasse de baleine. Il traversa le campement, indifférent à ce qu'il regardait. C'était la première fois sans doute qu'il déambulait sur la route sans observer chaque détail avec des yeux avides. Il se sentait maintenant presque en terrain connu et laissait son esprit divaguer. Comme toujours après un interrogatoire, Alvar laissait les éléments infuser dans sa mémoire. Le commanditaire roulait dans une voiture dont le modèle correspondait à celui des cadres supérieurs de la WA. Il avait une 50aine d'années, il était de type caucasien, avec le front légèrement dégarni et des sourcils fournis. Il recevait des coups de fil à 23 heures d'un homme au nom chinois. Il savait dans quelle caravane se trouvait Marek sans pour autant savoir qu'il était délicat. Il le connaissait donc dans le monde virtuel et avait réussi à tracer sa connexion, ce qui nécessitait un matériel de pointe, peut-être professionnel. Il buvait occasionnellement de l'alcool et faisait probablement du sport pour se maintenir en forme. C'était un homme cultivé, avec de possibles addictions. De son côté, Marek avait été tué pendant une conversation avec un ange aux yeux d'or. Se pouvait-il que ce fût la même que celle qu'il avait déjà rencontrée? Aussitôt arrivé au bureau, et après avoir rapidement salué Samir, il se connecta au Paradict. « Tu joues maintenant ?» demanda son collègue surpris. « Non, j'ai quelque chose à vérifier. » Alvar consulta l'historique de son cottage et, outre les va-et-vient d'Elina et l'intrusion unique de Caïn, l'ange d'Abel, il repéra tout de suite la visite d'un ange inconnu. Elle s'appelait Mantra, était répertoriée comme architecte et n'avait laissé dans la maison aucune trace apparente de sa visite. Mais avec son empreinte numérique, il était désormais possible de lui envoyer un message, et Alvar le fit immédiatement. Quelques minutes plus tard, l'avatar aux yeux d'or apparut sur son écran, et Alvar accepta son appel en se demandant si c'était ce même visage qui avait assisté sans le voir au meurtre de Marek. Conscient que Samir, fort intéressé, se déplaçait pour assister à la conversation, Alvar, ou plutôt son ange, adopta une attitude circonspecte. « Vous vous souvenez de moi ?» demanda l'ange aux yeux d'or. « Oui, parfaitement. J'attendais votre visite. Je suis toujours aussi intéressée par ce que vous pourrez m'apprendre sur ce dénommé Kurt, sur Marek, et sur tout ce que vous jugerez utile de me dire. » « C'est un ange qui a fait surface il y a quelques semaines, peut-être 2 mois. Vous pourriez être plus précise ? Disons qu'il n'était pas là pour l'avant-dernière exposition de Marek et qu'il est arrivé après, ce qui nous mène au mois d'août environ. » Ce Kurt a donc débarqué aux côtés de Marek à partir du mois d'août. Oui, environ. Comment se présentait-il? Comme un fan, principalement. Un fan cultivé, éclairé, probablement un mécène, même si Marek n'aimait pas parler d'argent. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il était riche? Les choses qu'il a commandées à Marek, le temps que Marek lui consacrait. Marek paraissait l'apprécier? Je ne dirais pas cela. Il était souvent en sa compagnie, c'est vrai, mais... Le Paradict est ouvert à tous. Je pense que Kurt s'imposait parfois. Vous avez des raisons objectives de penser ça? Disons, des raisons subjectives. Je connaissais assez bien Marek, et j'ai discuté suffisamment avec Kurt pour savoir que ces deux-là n'avaient pas tant de choses en commun. Comment était Marek? Brillant, inattendu, profondément humain, attaché au réel malgré les apparences. Et comment définiriez-vous ce Kurt? Je ne sais pas. À la fois très mondain et très misanthrope, si vous voyez ce que je veux dire. Non, je ne vois pas, mentit Alvar. Eh bien, c'était le genre de type à l'aise-partout, avec des compétences sociales et un remarquable carnet d'adresses. Mais il transpirait une sorte de mépris pour le monde réel, pour les gens, pour l'espèce, pour l'avenir. Quand vous parlez d'un carnet d'adresses, vous parlez d'un carnet d'adresses dans le Paradict? Oui, bien sûr. Je ne l'ai jamais rencontré que là, ainsi d'ailleurs que Marek. Vous ne savez pas à quoi ressemblait Marek dans la réalité. Je l'imagine particulièrement beau, comme son ange. Vous ignoriez qu'il était délicat? Mantra marqua un temps d'arrêt. Oui, je l'ignorais. Vous étiez très proche de lui, mais il ne vous l'avait pas dit. Non. Le fait qu'il ne fasse jamais d'autoportrait ne vous a pas choqué? Il n'y a pas d'explication rationnelle à l'art. Parfois il y en a une. Vous ne m'avez pas dit quel type de relation vous entreteniez avec Marek. Des relations professionnelles et un peu amicales. Nous étions dans la même branche et j'admirais son travail. Il m'a aidé à plusieurs reprises et j'ai aussi fait un peu de sous-traitance pour lui. J'étais toujours invitée à ses événements, je faisais partie de son cercle de connaissances. Marek avait beaucoup de connaissances? Oui, des centaines. Des centaines dans le même cercle que vous? Non, peut-être pas, peut-être seulement des dizaines. Quelle est la dernière fois où vous avez communiqué directement avec lui? Mantra marqua un nouveau temps d'arrêt, et Alvar sut qu'elle était en train de réfléchir, peut-être de calculer. Je pense que ce devait être vers le mois de septembre. La mort datait du 12, et Alvar insista. Quel jour de septembre? Je ne sais pas, dans la première quinzaine. Ensuite je l'ai croisé à divers événements, mais il a été plutôt fuyant. Ensuite, vous avez croisé son ange, mais ce n'était plus lui, corrigea Alvar. Quand est-il mort? Le 12 septembre. Quelle était la teneur de votre dernière conversation? Était-ce une conversation prolongée? J'ai eu plusieurs conversations assez rapprochées. Je lui demandais des conseils pour l'architecture d'un animal. Aucune des conversations ne s'est arrêtée de manière anormale. Il y eut un troisième temps d'arrêt. Non, pour autant que je me souvienne. Alvar décida de changer de sujet. « Ce Kurt, vous ne l'avez plus revu ensuite ?»« Non, il a disparu de la circulation. »« Connaissez-vous une adresse dans le paradis où je pourrais trouver des informations sur lui ?»« Non. »« Vers quelle heure vous connectez-vous au paradis ?»« J'y suis parfois toute la journée. Je travaille beaucoup chez moi sur mon ordinateur et le paradis tourne en fond de tâche. »« Quel est votre rythme de vie ?»« Que voulez-vous dire ?»« Vers quelle heure vous levez-vous en général ?»« Vers 10 ou 11 heures. » Et vers quelle heure vous couchez-vous? Cela dépend. En quoi cela vous intéresse-t-il? Je voulais savoir si vous passiez souvent des appels à 2h30 du matin. Il y eut encore un temps d'arrêt. Je ne comprends pas. Passez-vous souvent des appels professionnels la nuit pour demander un conseil sur l'architecture? Non, bien sûr. Pourquoi cette question? Pour rien. Connaissez-vous d'autres anges aux yeux jaunes dans l'entourage de Marek? Non, c'est une couleur assez rare, commenta-t-elle. « Eh bien, je vous remercie infiniment, Mantra. Je suppose qu'il n'est pas utile de vous demander de vous prêter à un interrogatoire réel. »« Mon Dieu, si je peux l'éviter !»« Vous pouvez. Votre témoignage m'a été très utile. » L'ange aux yeux d'or fit un sourire gracieux et coupa la communication. Alvar se tourna vers Samir, qui n'avait rien perdu de l'échange. « Tu la suspectes ?»« Non, mais j'ai appris aujourd'hui que mon délicat était en conversation avec un avatar de femme, un avatar aux yeux jaunes, lorsque son assassin l'a surpris. « Comment ont-ils pu tracer son appel ? » demanda Samir. « Ce n'est pas courant de retrouver l'adresse physique de quelqu'un dans le paradis. Il n'y a en principe que très peu de failles de sécurité. Et ce type était un architecte puissant. Comment aurait-il laissé une brèche ouverte qui menait à lui ? Quelque chose cloche dans cette histoire. » Alvar ajouta cet élément à infuser avec les autres. Une brèche de sécurité. La façon dont Marek avait été tracé était probablement la clé qu'il recherchait. Mais il y avait aussi ces autres éléments qui venaient remplir le profil un peu vide de l'assassin. Mécène, mondain, misanthrope, avec des engouements soudains. Des addictions à l'alcool, au paradis, peut-être à l'argent. Un homme actif dans les deux mondes, aussi connu dans le paradis que dans la réalité. Un cadre cynique de la WA qui avait un peu perdu pied dans son délire de toute puissance. L'image des doigts sectionnés de Bassel Khazra, sans raison, venait à sa conscience, comme une énigme à déchiffrer. Le pouce et l'index de la main droite, était-ce un prix juste à payer pour ce qu'il avait fait? Le patron estimait que le bras armé n'était pas responsable, mais il l'avait tout de même amputé. Quel prix payerait le commanditaire si on le retrouvait? Quel châtiment méritait celui qui, sans se salir les mains, décidait sur un coup de tête de la disparition d'un autre être humain. Bassel Khazra, au moins, se souviendrait toujours de son acte, à chaque fois que les doigts fantômes le démangeraient, à chaque fois qu'il lui ferait défaut. Bassel Khazra avait trempé ses mains dans le sang et en avait gardé l'empreinte brûlante. Mais ce mécène capricieux, penserait-il à ce meurtre dont il n'avait pas le souvenir, ni le traumatisme? À ce meurtre qui avait consisté à proposer un marché à un homme lors d'une nuit de beuverie? Non, il devait dormir paisiblement, au son d'un air d'opéra, ou peut-être était-il préoccupé par autre chose, par une réunion qui s'était mal passée, ou par un subordonné indocile. Lorsqu'il fut rentré chez lui le soir, avant de se connecter au paradis, Alvar ouvrit un fichier vierge, qu'il ne sut comment nommer, et écrivit au milieu de la page « Dans l'ombre errante des caravanes, l'éclat frémissant d'une piste. »